Nous lisons dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 16, Apocalypse 16, verset 7. Apocalypse 16, verset 7. Et j'entendis l'autel dire, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil. Il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une chaleur torride. Ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses maux, sur ses plaies. Et ils ne se repentirent pas pour lui rendre gloire. Dans ce passage, il nous est décrit une calamité, une catastrophe naturelle que Dieu envoie dans les temps de la fin. Il est écrit au verset 8, « Il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. » Donc le soleil aura une puissance pour brûler. Mais curieusement, les hommes blasphémèrent le nom de Dieu. Verset 9, « Et les hommes furent brûlés par une chaleur torride. Ils blasphémèrent le nom du Dieu. » qui a l'autorité sur ses plaies. Et ils ne se repentirent pas pour lui rendre gloire. Quand j'ai reçu ce verset, j'ai dit, mais Seigneur, comment veux-tu qu'on te rende gloire après avoir subi des chaleurs torrides? J'ai compris moi-même que personnellement, j'avais été influencé par la pression ambiante. À tel point que, à partir d'un malheur, je ne m'attendais pas à ce que les gens se repentissent pour rendre gloire à Dieu. Je m'attendais à ce que les gens se plaignent. On entend tellement les chrétiens se plaindre et les gens se plaindre que nous, pasteurs ou nous, chrétiens, nous cherchons pour les amener au Seigneur à ce que le Seigneur leur fasse de bonnes choses. On a même On commence à changer l'évangile. On veut que le Seigneur donne des bonnes choses pour que les gens croient en lui, qu'il fasse des miracles. Comme ça, les gens vont dire, Dieu est bon. Parce que quand j'ai reçu ça, j'ai dit, mais est-ce que ça, c'est, on peut prêcher de telles choses? Bien-aimés, comme nous sommes soumis à Dieu, nous sommes soumis, nous ne sommes que des instruments, il faut prêcher ce que Dieu veut qu'on prêche. Après une chaleur torride, qu'est-ce que Dieu s'attend? À quoi Dieu s'attend? Il s'attend à ce que les gens disent, tiens, il y a un être qui est supérieur à nous. Nous qui avons des grandes machines de climatisation, nous qui avons une organisation à tout casser, nous n'arrivons pas à vaincre la chaleur. Nous n'arrivons pas à vaincre le soleil. Alors je me suis rappelé, tiens, si je reçois ce passage, mais c'est parce qu'aussi il vient de se faire une catastrophe récemment. Donc ce volcan qui a paralysé tout le ciel européen. Je me suis dit, mais tiens, c'est vrai, les gens ne se sont pas repentis. Ils ont fait des réunions interministérielles pour trouver des solutions. Ils ont consulté des savants. Même si certains savants, je les ai entendus dire, c'est la preuve que l'homme est tout petit devant la nature. Mais ils ne veulent pas accepter qu'il y a ce qui est écrit dans le verset 9. Ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces plaies-là, sur ces maux. Donc, ils ne veulent pas accepter que c'est Dieu qui a l'autorité sur les volcans, sur le soleil et autres. Je me suis dit, tiens, la pression, c'est quelque chose. l'environnement a une grande influence sur les gens. Parce que ce verset est devenu difficile pour moi, alors que quand on lit, il est évident pour Dieu. Dieu dit, et les hommes furent brûlés par une chaleur torride, ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses plaies, et ils ne se repentirent pas pour lui rendre gloire. Pour Dieu, c'est évident que devant de telles catastrophes, les gens se disent, tiens, on est petit, on a commis des péchés, on s'est mal comporté, repentons-nous pour rendre gloire à Dieu. Les gens ne font que se plaindre. Ah, les volcans. Ah, le soleil. Tsunami, tremblement de terre. Et ils disent, où est Dieu? Bien-aimés, mais Dieu est Dieu. Il trouvera toujours des adorateurs. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé en Haïti? Eh bien, le tremblement de terre a fait que les gens ont adoré le Seigneur. Eux, ils se sont repentis. Les gens qui ont suivi la télé, ils ont vu les Haïtiens se repentir et louer Dieu, rendre gloire à Dieu. Alors que les journalistes étaient étonnés, ils disaient, mais c'est la folie. Les Européens étaient étonnés. Mais eux qui ont subi le tremblement de terre, ils ont accompli ce passage. Et c'est la volonté plutôt de Dieu cachée dans ce passage. Ils l'ont accompli. J'ai vu ça de mes yeux. J'ai vu un païen, un grand intellectuel haïtien, un païen, un athée, raconter ce qui s'est passé après le tremblement de terre. Il dit, quand le tremblement de terre a eu lieu, donc lui, il était présent, ils ont fui. Mais après quelques minutes après le tremblement de terre, tout le monde est sorti en train de crier Jésus. C'est un païen. Et le journaliste Benoît Duquesne précise aux auditeurs et aux téléspectateurs, il dit, lui, c'est un païen, lui ne croit pas en Dieu, parce que les gens risquent de croire que c'est quelqu'un, un chrétien qui veut annoncer la parole à travers cet événement. Non, la personne qui parlait, c'était un athée. Mais il reconnaît qu'après le tremblement de terre à Haïti, les choses n'étaient plus pareilles. Les gens se sont repentis pour rendre gloire à Dieu. Ils ont reconnu leur petitesse. Aujourd'hui, les chrétiens, c'est les premiers à se plaindre. Nous allons revenir aux chrétiens. Mon thème, c'est l'endurcissement actuel, l'endurcissement du cœur. Les cœurs sont devenus plus durs qu'avant. Plus durs. De sorte que même ceux qui sont de la vérité subissent une telle pression de condamnation vis-à-vis de Dieu qu'ils ont du mal à tenir, ils sont étouffés. Les cœurs sont devenus très durs. L'orgueil a augmenté de niveau. Nous allons lire cela dans 2 Timothée, au chapitre 3. De tout temps, c'est vrai, il y a eu des inconvertis. De tout temps, il y a eu des têtus vis-à-vis de Dieu. Mais nous vivons une époque où le nombre de ces personnes et la dimension de la têtutesse augmentent fortement. Et c'est vraiment impressionnant. Impressionnant. Nous lisons au chapitre 3 de la deuxième épître à Timothée, verset 1er. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrat, sacrilège, insensible, implacable, calomniateur, sans frein, cruel, ennemi des gens de bien, traître, impulsif, enflé d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Et il y en a qui seront infiltrés parmi les chrétiens. Voilà ce qu'on dit au verset 5. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est même parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes chargées de péché et agitées par des passions variées. Elles apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. Voilà ce qui est dit. Dans les temps de la fin, les gens seront compliqués, durs, orgueilleux, difficile à lâcher devant Dieu. Difficile à lâcher devant Dieu. C'est ce que nous vivons. Les hommes, les femmes sont devenus très, très durs. Vous savez, autrefois, dès qu'il y avait une catastrophe, éruption, tremblement de terre, des chaleurs exagérées, qu'est-ce que les humains faisaient? Même ceux qui avaient des faux dieux, ils allaient chercher à se repentir. Je connais même une fable de la fontaine, les animaux malades de la peste. Donc il est raconté qu'il y a eu une souffrance, une maladie qui est venue sur les animaux. Et les animaux se sont posé la question, quel mal nous avons fait? Donc chaque animal devait se repentir. Et on devait sacrifier celui qui a fait le plus de mal. Voilà, ça c'est la fable de la fontaine. Mais une fable sur les animaux nous montre que même les animaux ont cherché à se dire, à comprendre qu'est-ce qui leur arrivait. Pour dire, tiens, si cette maladie nous atteint, forcément, le péché y est pour quelque chose. On doit se repentir, chacun doit se confesser. Même le lion a confessé. Tout le monde a confessé. L'âne a confessé même qu'il a mangé un peu d'herbe chez quelqu'un. Donc, tout le monde a confessé. Donc, si les animaux ont ce sens-là, mais les humains, catastrophe naturelle, oh, si Dieu existait, blasphémateur, comme c'est écrit là, sacrilège. Vous savez, rien qu'au XXe siècle, nous on a vécu une époque où les gens préféraient se taire plutôt que blasphémer contre Dieu. Ils étaient mécontents, mais ils ne pouvaient pas dire « Votre Dieu, il est où ?» Ils étaient mécontents, ils pleuraient, c'est tout. Mais nous vivons une époque où les gens osent dire « Votre Dieu, il est où ?» Même les chrétiens, bien-aimés, c'est ce qui me fait mal. Quand des chrétiens, devant la souffrance, devant la misère, ils commencent à dire à haute voix, je comprends que nous tous, quand nous souffrons, nous puissions dire « Dieu, tu es où ?» Mais il y a des choses que tu ne vas pas dire à haute voix. Certains me diront « Mais vaut mieux être sincère. » On n'en disconvient pas. Vaut mieux être sincère si tu as atteint ce stade-là de dureté de dire à haute voix. Mais il ne faut pas atteindre ce stade-là. Il y a un minimum de respect qu'il faut accorder à Dieu. Même si tout ne marche pas, on se dit « Je me tais. » Parce que qui est l'homme pour discuter avec l'Éternel? Parce que quand tu contestes Dieu, donc tu admets quelque part qu'il existe, mais qui es-tu toi pour contester devant celui qui a fait les cieux et la terre? Il n'y a que deux possibilités. Soit tu considères qu'il n'existe pas. Un point, c'est tout. Mais si tu contestes devant lui, si tu es sacrilège devant lui, donc c'est que tu admets quand même qu'il existe. Donc s'il existe, il a fait les cieux et la terre. Mais comment tu peux discuter avec celui qui a fait les cieux et la terre? Comment? C'est l'orgueil. L'orgueil atteint des dimensions exponentielles. La dureté du cœur devient terrible. Il y a des gens qui sont devenus des menteurs professionnels, donc ils mentent tranquillement. C'est comme si Dieu ne voit pas. Ça, c'est la résistance et l'orgueil. Il y a des gens qui ne veulent plus céder, qui ne veulent pas du tout céder à Dieu. Ils ont décidé que c'est la science qui va les aider. Ils ont décidé que c'est leur intelligence qui va les aider dans la vie. Ils ont décidé que Dieu ne prendra pas le contrôle de leur vie. Et ça devient de plus en plus dur. La pression est grande. Bien-aimés, à tel point que nous n'avons qu'une seule solution, la prière. Si nous voulons que Dieu amène les gens à lui, nous chrétiens, nous devons prier. Seul le Saint-Esprit peut briser le cœur de pierre. Parce que les cœurs sont devenus vraiment de pierre. Les gens sont devenus durs, ingrats. Je vais relire ce qui est dit des gens dans ces temps de la fin. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilège, insensible, implacable, calomniateur, sans frein, cruel, ennemi des gens de bien, traître, impulsif, enflé d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété. Ça, c'est le faux chrétien. Mais ils en réuniront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ils vont garder une forme. Mais, en réalité, c'est des gens amis de l'argent. Des gens blasphémateurs, calomniateurs. Vous savez, bien aimé, quand on dit blasphémateur, les gens pensent qu'on va parler directement toujours à Dieu. Non, il y a un blasphème qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Et il est écrit, tu blasphèmes contre Dieu, tu blasphèmes contre son Fils, tu seras pardonné. Mais tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, c'est fini. C'est quoi ce blasphème contre le Saint-Esprit? C'est nier l'évidence de Dieu. Tu nies l'évidence même de Dieu. Tu vois bien que l'acte que vient de faire quelqu'un, c'est un acte juste, un acte bon. Mais pour tes intérêts, tu qualifies cet acte de méchant, de faux. Ça, c'est du mensonge, c'est nier l'évidence de Dieu. C'est les pharisiens qui voyaient bien que Jésus était de Dieu. Mais pour leurs intérêts, ils n'ont pas voulu l'accepter. Ils ont nié l'évidence. Jésus était l'évidence même de Dieu. Sans reproche, sans péché, faisant des miracles, prêchant la parole saine. Mais ils ont nié l'évidence. Nier l'évidence de Dieu, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et le blasphème est devenu facile à notre époque. Malgré les catastrophes, malgré les souffrances. Parce que Dieu a fait trop de bonnes choses. Chaque jour, il en fait de bonnes choses. L'homme ne le reconnaît pas. Comme il veut sauver, il va envoyer des catastrophes. Et il a prédit qu'il enverrait des catastrophes pour que l'homme se réveille. Mais l'homme ne se réveille pas. Ce sont seulement les simples qui se réveillent. Comme à Haïti, les simples se sont réveillés. Quand ils ont vu le tremblement de terre, ils se sont dit non, on a péché. Seigneur, nous te demandons pardon. Mais on voit le volcan bouger en Islande. Pas de mouvement en Europe. Personne ne se repent. Les gens sont devenus durs. Ils savent qu'ils s'en sortiront avec la CAF. Ils savent qu'ils s'en sortiront avec le RMI. Ils savent qu'ils s'en sortiront avec les réserves. Il paraît que les États-Unis ont 25 ans de réserves de nourriture, l'Europe 15 ans de réserves. Donc ils savent qu'ils s'en sortiront. Bien aimés, un jour ces réserves-là seront brûlées en même temps. Comprenons l'époque que nous vivons. Nous vivons une époque où les gens sont devenus durs. Le but de cet enseignement, c'est quoi? C'est qu'au lieu de décourager, il faut prier beaucoup. Parce que les gens étant devenus durs, on risque de décider de ne plus évangéliser. On risque de décider de ne plus parler du Seigneur. On risque nous-mêmes d'être atteints dans notre foi. Parce qu'on a l'impression d'être seul. Et on a l'impression, vous savez, petit à petit, quand on ne fait qu'entendre, on finit par être convaincu. Or, notre force vient du fait aussi que nous, on parle. Nous, on annonce, nous, on vit pleinement notre foi. Ça permet que les ténèbres reculent et que nous retrouvions dans des atmosphères, dans des sphères, dans des cercles, avec une atmosphère agréable à l'évangile, et ça nous permet de nous maintenir. Or, l'endurcissement du cœur ambiant fait que, de plus en plus, les chrétiens se recroquevillent. Ils se tassent. Mais en se tassant, ils finiront par nier Dieu eux-mêmes aussi. Mon appel, c'est un appel à la prière. Parce que si on ne prend pas conscience du danger que nous courons, nous allons finir très mal, même nous-mêmes. L'endurcissement du cœur est devenu très grand. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse que celui qui est saint se sanctifie davantage. Ta sainteté d'hier ne suffit pas pour les combats d'aujourd'hui et d'avenir. Il faut une plus grande mise à part, une plus grande sainteté, parce que l'endurcissement du cœur est très fort. Les gens sont devenus sérieusement orgueilleux, personnels, individualistes. Et ils se croient tous être de Dieu, parce qu'ils ont de quoi manger, ils ont des moyens de se vêtir, ils n'ont besoin de personne. Bien-aimés, attention, comprenons ce qui se passe. Soyons attentifs. Dieu est en train d'agir. Il est en train d'avertir. Ce volcan qui a bougé, c'est un avertissement du Seigneur. Que celui qui est attentif prenne des mesures. Qu'il accomplisse ce que Dieu aurait désiré. Contrairement à ce qui est dans Apocalypse 16:9. Il est écrit dans Apocalypse 16:9, ils ne se repentirent pas pour rendre gloire à Dieu. Ils ont encore décidé d'accuser Dieu. Ils ont encore décidé de condamner Dieu. Au lieu de dire, tiens, Seigneur, je me repens. Seigneur, nous voyons ta grandeur. Un volcan paralyse. Des milliers d'avions. À tel point que 4 compagnies aériennes vont mettre la clé sous la porte. Un volcan arrive à faire cela. Mais si c'était 2 volcans, si c'était 3 volcans, parce que c'était en plus le plus petit des volcans, mais si le gros maintenant commence, bien-aimés, réveillons-nous. Hein. Comprenons que Dieu est plus grand et repentons-nous. Les gens à qui nous n'avons pas encore pardonné, il faut pardonner. Le temps presse. Comprenons que nous devons répondre au mal par le bien. Les gens qui te font du mal, réponds par le bien. N'entre pas dans leur jeu. Parce que le temps presse. Comprends que les jugements du Seigneur sont justes et véritables. Ils s'avancent. Bien-aimés, je me souviens que ça fait un moment, on ne parle pas des jugements de Dieu dans le sens où il va frapper la terre et le ciel. Les chrétiens préfèrent prier seulement que Dieu leur donne la puissance des miracles. Comme ça, ils convaincront les gens. Non! Il nous faut la puissance des miracles pour que Dieu soit glorifié. Mais croire que les miracles vont convaincre les gens, on se trompe. Les miracles glorifieront le Seigneur. Les gens verront, ils reconnaîtront que notre Dieu est le plus fort. Mais est-ce qu'ils se convertiront? Ça, c'est une autre paire de manches. Nous devons prier que Dieu touche les cœurs. C'est la prière qui va faire la différence. Ce n'est pas les prédications éloquentes. Ce ne sont pas les miracles. C'est la prière. Portons au Seigneur l'humanité. Portons au Seigneur les gens qui se perdent. L'endurcissement est devenu très grand. Seul Dieu peut travailler un cœur. Alors venons à Dieu dans la prière. Disons, Seigneur, travaille ces cœurs-là. L'endurcissement est devenu grave. Les gens se prennent pour Dieu. Résistons, bien-aimés, à cela. Tremblement de terre, tsunami, volcan, malgré ça, pas de repentance. Mais le Seigneur nous montre que les simples se repentent. Fais partie des simples, frères, sœurs. Choisis d'être parmi les simples, les gens qui ne sont pas compliqués. Les gens n'ont plus peur des catastrophes naturelles. Ce qui faisait convertir des gens par milliers, autrefois, il y a des siècles. Aujourd'hui, ça ne fait plus peur aux gens. Il y en a même qui construisent des bunkers pour échapper à ça. Il y en a qui construisent, il y a maintenant des normes qu'on dit, des normes antisismiques. Donc on va construire une maison, au cas où il y a un tremblement de terre, ça ne va quand même pas tomber. Mais bien aimé, quand le ciel va s'ouvrir, même si la terre va s'ouvrir, même si tu as fait ça par normes antisismiques, la terre va avaler l'immeuble. Hein? La terre avale. Qu'est-ce que les normes antisismiques vont faire? Les gens sont devenus durs à cause du salaire minimum, SMIC. Ils sont devenus durs à cause des vêtements qui sont devenus moins chers. Ils sont devenus durs à cause du chauffage à la maison. Fais très froid à l'extérieur, mais toi tu maîtrises la situation chez toi. Tu règles ça à 23. 23 degrés. Et les gens croient qu'ils maîtrisent la nature. Et Dieu va utiliser la nature pour dire « Je suis le chef, je suis le patron. » Mais malheureusement, les impolis, les rebelles vont toujours continuer à blasphémer. Malgré le fait que Dieu va démontrer par la nature que c'est lui le chef. Bien aimé, il ne faut pas avoir honte. Il y a des chrétiens qui disent « Ah oui, mais on nous a dit, mais si Dieu existait, mais pourquoi le tremblement de terre, tu dis oui, c'est le jugement, afin que vous compreniez que Dieu est au-dessus de ça. » Nous, je dis, mais ça va faire fuir les gens. Non, c'est la vérité. Vous et moi, nous venons de lire ça. Voilà comment on est influencé. Moi-même, quand j'ai reçu ça, j'ai hésité. Mais c'est écrit. Le Dieu qui gère ces fléaux-là, ces catastrophes, il y a Dieu, l'Éternel, qui gère tout ça. C'est lui. Ce sont ses jugements. N'ayons pas honte de dire ce sont les jugements de Dieu. Vous voyez, quand nous on a honte, qu'est-ce qui se passe? Il y a des faux qui prennent notre place. L'imam iranien a dit que c'était le jugement de Dieu. Les gens ont rigolé à... Il a dit, c'est le jugement de Dieu parce qu'il y a trop de légèreté sexuelle. Alors les journalistes ont rigolé. Mais pourquoi on n'a pas entendu une voix chrétienne pour dire c'est le jugement de Dieu? Parce que les chrétiens ont choisi la méthode douce, la méthode des miracles, la méthode homéopathique, la méthode satanique, c'est-à-dire flatter les gens pour les amener à Dieu. Dieu n'a jamais flatté personne pour l'amener à lui. Il avertit, c'est moi qui t'ai créé. Si tu te repens, tu es sauvé. Si tu veux faire de toi-même ton créateur, tu seras jugé. Dieu avertit. Et pendant qu'il avertit, il manifeste aussi sa bonté. Les miracles se font pour montrer qu'il est Dieu, qu'il maîtrise la création. Mais ce n'est pas une méthode, la méthode douce. Il faut prêcher l'évangile tel qu'il est. Il est écrit, une chaleur torride a secoué les gens. Mais ils ont blasphémé quand même. Il y a eu la canicule. Oh, le responsable, c'est le gouvernement. Ils n'ont pas cherché à reconnaître que Dieu est au-dessus. Ils ont encore blasphémé. Ils ne se sont pas repentis pour rendre gloire à Dieu. Voilà ce que dit la Bible. Parlons maintenant des chrétiens, bien-aimés. De plus en plus de chrétiens refusent de se repentir. De plus en plus de, entre guillemets, chrétiens refusent de s'humilier et blasphèment contre Dieu. Il y en a qui attaquent Israël. Or, le Dieu que eux ils prient, il se nomme le Dieu d'Israël. C'est des blasphèmes contre Dieu. Ça sera pardonné, hein, si tu te repens. Ce n'est pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Ah oui, mais il y a injustice. Mais bien aimé, est-ce que tu t'es informé comme il faut de la situation d'Israël? Est-ce que tu connais ou tu as suivi sur France 2? Avant de prendre position, informe-toi comme il faut. Connais le début des choses, connais la fin des choses. Lis dans ta parole, dans la Bible, qu'est-ce que dit Dieu à propos d'Israël? Qu'est-ce que Dieu dit? Parce que le Dieu que tu pries là, le Dieu de Jésus, eh bien, Jésus a dit le salut vient des Juifs. Le Dieu que tu pries, il se nomme le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Jacob, c'est lui, Israël. Le Dieu que tu pries, il dit qu'il aime Israël d'un amour éternel. C'est comme si tu haïssais l'enfant de quelqu'un qui t'aide, quoi. Qui te fait nourrir, qui te fait vivre. Et tu lui dis, je déteste ton enfant, mais est-ce que tu peux dire de telles choses, sachant que cette personne-là, c'est elle qui te fait vivre? Non. Ne vous laissez pas avoir par les faux chrétiens qui sont en train de combattre Israël sans comprendre les choses. Je sais que il y a des questions qu'il y a dans le cœur, mais venez le mardi et posez ces questions-là. Nous allons vous éclairer. Parce qu'ici, aujourd'hui, ce n'est pas le jour de prêcher sur ces choses. On a déjà fait 2 mardis sur Israël, expliquer les tenants et les aboutissants. Mais vous pouvez venir, même quand on ne parle pas de ça, poser la question. Parce que je veux éviter à beaucoup de chrétiens le blasphème. Il y a des positions que certains prennent sur Israël qui sont des attaques directes sur Dieu lui-même. Attention, bien-aimés. Je me souviens, dans la région parisienne, un jour, j'ai parlé de ces choses-là, un mardi, et il y a un frère, le mec, il s'apprêtait à aller marcher contre Israël avec des amis du quartier, une marche pro-palestinienne et contre Israël. Et heureusement, Dieu l'avait amené ce mardi-là, il a écouté, il s'est repenti, il a compris que Dieu avait occasionné cela pour lui. Bien-aimé, attention, nous aimons l'humanité entière, nous aimons les Palestiniens, nous aimons les Arabes, et moi-même, mon deuxième pays, c'est le Maroc. Ce sont mes compatriotes, les Arabes. Mais nous devons comprendre que le plan de Dieu est au-dessus de tout. Alors, il ne faut pas prendre des positions spirituelles par rapport à ce qui vient de la télé. Il faut prendre des positions spirituelles par rapport à ce qui vient de la Bible. C'est très important. Donc, pour ceux qui ont des questions dans ce sens-là, des incompréhensions, venez poser ces questions-là. Nous vous éclairerons là-dessus. Il y a des gens qui blasphèment contre Dieu en décidant qu'il n'existe plus d'église. Mais c'est des chrétiens. Ils commencent à dire, tiens, je veux vivre tout seul. Alors que le Seigneur a dit dans Matthieu 16, tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts n'auront point le dessus sur elles. Il y a des gens, des chrétiens qui commencent à dire, les églises, ça sert à rien. Il y a tellement de désordres, il y a tellement de méchancetés. Mais oui, mais bien aimé, c'est toi qui fais l'église. Si toi tu es bon, eh bien commence l'église dans ta maison. Parce qu'à moins que tu admettes que toi-même aussi tu sois méchant, mais toi qui juges les gens ainsi, donc tu es bon. Puisque tu es bon, commence chez toi un groupe où tu vas enseigner aux gens la bonté. Nous, on cherche de tels pasteurs bons. Donc, puisque pour toi, tous les autres sont mauvais, il n'y a que toi, ben, deviens notre pasteur alors. Commence à la maison, nous verrons cela et nous viendrons. Parce que partout, c'est mauvais. Il y a des gens qui ont décidé qu'il n'y avait plus de bonne église. Que les chrétiens étaient devenus mauvais. Ah, moi, je ne travaille pas avec les chrétiens. C'est un chrétien lui-même. Hein. Moi, dans mon entreprise, pas de chrétiens. Les chrétiens sont compliqués. Bien-aimé, donc toi-même, tu es compliqué alors. Il n'y a que 2 possibilités. Soit toi-même, tu es compliqué. Soit tu n'es pas chrétien. Mais si tu es chrétien, tu penses que toi, tu n'es pas compliqué, c'est les autres qui sont compliqués. Alors montre-nous l'exemple, par ta patience, par ton amour, par ta bouche qui sort des paroles de grâce et non des paroles de critique et de rabaissement. Montre-nous, bien-aimés, ce sont des blasphèmes, parce que ça voudrait dire que Dieu a échoué. Il n'y a pas un seul chrétien qui soit bon, donc Dieu a échoué, alors qu'il dit qu'il aura toujours un reste dans la parole, donc il ment Dieu. Il ment Dieu quand il dit que l'enfer n'aura pas le dessus sur son église. Il ment puisque toi tu veux attester qu'il n'y a plus d'église. Et tu préfères vivre ta vie chrétienne en individualiste. Ça n'existe pas. La Bible dit soyez soumis à toute autorité. Donc tu fais de Dieu menteur parce que toi, avec toi, il n'y a pas d'autorité. Il est écrit que Dieu a donné les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les apôtres pour amener son peuple à la perfection. Mais toi, tu décides que ces gens-là, il n'y en a plus de bons. Donc Dieu s'est trompé. Bien-aimés, nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de désordres dans les églises, mais la Bible nous dit clairement qu'il y a un reste. Il y a un troupeau que Dieu a mis de côté. À toi de prier Dieu, Dieu te fera joindre à ce troupeau-là. Et si tu n'en trouves pas, donc c'est toi. Le commencement d'un troupeau commence. Fais confiance en Dieu. Si les hommes déçoivent, Dieu ne déçoit pas. Si tu es convaincu d'être bon chrétien, alors prie le Seigneur. Seigneur, je n'ai pas trouvé d'autre bon chrétien. Alors, oins-moi, donne-moi la puissance pour en faire des bons, qu'on soit nombreux. Voilà. Bien-aimé, les gens sont devenus durs. Et vous allez remarquer une chose. Quand les gens deviennent durs, la Bible ne leur fait plus peur. La Bible, ils ne craignent plus la parole. Tu as beau dire un verset, ils font comme ça. Ah, vous les pasteurs, vous dites toujours ça. Tu dis un verset, ah, vous les chrétiens. Lui-même, il est chrétien parfois. Il dit, vous les chrétiens. Mais toi, tu es quoi? Un païen alors. Bien-aimé, vous allez remarquer ça. Regardez dans votre entourage. Vous allez voir que les gens les plus têtus, les plus problématiques, ils ne craignent pas la parole. Remarquez. Vous allez voir qu'ils vont souvent vous parler de leur propre révélation. J'ai vu Dieu la nuit. Je l'ai entendu tôt le matin. Vous allez entendre souvent la phrase, voilà comment moi je conçois Dieu. Cette phrase-là, vous allez l'entendre souvent. Ils sont devenus eux-mêmes leur Dieu. Donc, ils conçoivent Dieu de telle manière. Ils ont formé un Dieu. Comme je parlais à quelqu'un en Belgique, c'est le comptable de mon beau-frère. Pour qu'on aille le voir, on a dû l'appeler pour qu'il nous montre l'adresse où il est, l'appartement où il est à Bruxelles. Et on arrive là-bas, on discute de Dieu. Il dit, voilà moi comment je conçois Dieu. Moi, je dis, oh, ce n'est pas à toi de concevoir Dieu. C'est à Dieu de te montrer à lui, voici moi Dieu. Moi, je dis, mais pour que nous, on vienne chez toi, on a dû t'appeler, tu nous as indiqué l'adresse. Mais imagine que nous, on aille à Anvers, alors que toi, tu es à Bruxelles. On t'appelle, on te dit, tu es où? Mais moi, je suis à Bruxelles. Mais nous, on t'a conçu à Anvers. Tu vas dire quoi? Tu vas dire, il fallait m'écouter moi. C'est moi, le comptable. Donc, moi, je vous dis que je suis à Bruxelles. Vous venez à Bruxelles à telle adresse. Imaginez maintenant, moi, je dis maintenant, tu me dis, toi, c'est Germain. Moi, je dis, mais moi, je te conçois noir. Alors que tu es blanc. Oh, mais tu vas être étonné. On dit, mais ce type, il est fou, comment? Moi, c'est moi, Germain, il dit qu'il me conçoit noir. Comment ça? Donc, Dieu est étonné des gens qui disent, moi, voilà comment je conçois Dieu. Il dit, mais bien-aimé, s'il avait des coups, il allait donner des coups à certaines personnes. Moi, je te dis que c'est comme ça que je suis. Toi, tu me conçois comme tu veux. Voilà le langage des gens aujourd'hui. La bonne conception de Dieu se trouve où? Dans la Bible. C'est la Bible. Les gens ne craindront plus la parole de Dieu. Voilà comment je conçois Dieu. Dieu m'a parlé. J'ai vu Dieu. J'ai expérimenté un miracle. J'ai reçu une vision. Et quand tu vas prendre la Bible, ah non, 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 ce que moi j'ai senti, c'était de Dieu. Mais non, mais Dieu, lui, s'exprime dans la Bible. Si ce que toi, tu as senti, c'est de lui, ça doit être conforme à ce qui est écrit. Ils vont faire, comme quelqu'un dit, quand vous leur parlerez de la Bible, ils vont botter en touche. Ils vont parfois vous dire, mais alors, ce que moi j'ai vécu, c'était quoi? Tu veux dire que c'est Satan? Mais non, c'est impossible. Bien-aimé, c'est la Bible qui est l'autorité suprême du chrétien. Ce n'est pas le pasteur. Ce ne sont pas les prophéties. Ce ne sont pas les visions. C'est la Bible. Si un pasteur te dit des choses qui sont contraires à la Bible, il ne faut pas suivre. C'est la Bible qu'il faut suivre. C'est clair, bien-aimé. Et le temps que nous vivons, les gens mettront la Bible de plus en plus de côté. Il faut serrer la Bible fortement, bien-aimé. C'est le conseil que je vous donne. Les temps sont difficiles. Que personne ne vous trompe. Toute la Bible est la vérité. Toute la Bible est la vérité. Si Dieu existe, il ne peut pas se tromper dans l'écriture de sa parole. Et quand nous disons que toute la Bible est la vérité, nous ne sommes pas en train de parler mathématiquement. et peut-être un chiffre dans Chronique qui ne correspond pas pour le même texte dans Rouen. Mais c'est quoi qu'on dise 10 000 chevaux, 1 000 chevaux ici, 10 000 là-bas? L'enseignement est que Dieu voulait montrer qu'il y avait un grand nombre. Maintenant, s'il y a une erreur de copiste, ça ne change rien au sens du texte. Ce sont des débats très bas. Quand on te dit qu'il y a eu accident à Rouen, à Saint-Sever, et que moi je te dise qu'il y a eu 2 morts, et que tu rencontres quelqu'un d'autre qui te dise qu'il y a eu 1 mort, est-ce que ça annule le fait qu'il y a eu accident? Pas du tout. Moi je te dis qu'il y a eu 1 mort, l'autre te dit qu'il y a eu 2 morts. Au contraire, c'est la preuve qu'il y a eu accident. Mais chacun a perçu l'accident d'une autre manière. Il y a un qui était au moment où les 2 mouraient, on a déclaré mort, il y a un qui est venu lorsqu'on a ranimé un. Donc, on n'a pas vécu tous exactement la même chose, mais il y a eu accident. Alors, les gens vont débattre sur ce genre de différence. Au contraire, qu'ils doivent confirmer, montrer l'honnêteté de Dieu. Dieu n'a pas voulu nous faire quelque chose de mathématique. Il a voulu nous faire quelque chose d'humain, pour que nous comprenions que Il est au milieu de nous, que c'est les humains qui écrivent. Ces humains-là ne sont pas Dieu. Et ces humains-là ne peuvent pas percevoir totalement Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de beaucoup d'humains qui écrivent pour qu'on ait la vision totale de Dieu. Et il y a des faux débatteurs qui vont venir toucher à ces choses-là. Il ne faut pas suivre, bien-aimé. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible et la parole de Dieu. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais pas un seul i de la parole ne passera. Nous sommes dans les temps de jugement. Repentons-nous, bien-aimés. Chrétiens, si tu es vraiment chrétien, c'est le moment de t'humilier, parce que tu seras jugé doublement, parce que tu as entendu la parole une fois, deux fois et plusieurs fois. C'est le moment de t'humilier devant Dieu. C'est le moment d'arrêter la contestation, bien-aimé. Le Seigneur frappe beaucoup de chrétiens dans le but de les corriger, mais ils ne veulent pas accepter. Ils ne veulent pas. Beaucoup sont frappés. Beaucoup sont bloqués. Mais au lieu de se repentir, non. Ils vont chercher des boucs émissaires. C'est la faute des autres. Ils vont chercher des boucs émissaires. C'est la faute de mes enfants. C'est la faute de mon mari. C'est la faute de ma femme. C'est la faute du pasteur. C'est la faute de l'église. Au lieu de comprendre que c'est Dieu qui est en train de me coincer et de se repentir. Il est écrit dans Apocalypse 16, malgré la chaleur torride, ils ne se repentirent point pour donner gloire à Dieu. Bien-aimés, donnons gloire à Dieu. Nous sommes ceux-là qui connaissons Dieu. Donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Ayons un comportement qui rende gloire à Dieu, bien-aimés. Même lorsqu'on est en colère, ne disons pas des mots méchants contre Dieu. S'il faut pleurer, pleurons et taisons-nous. Disons, je vais souffrir, mais que Dieu ne soit pas honteux. Je ne vais rien dire. J'ai comme un mécontentement vis-à-vis de Dieu par rapport à ce que j'ai subi, mais je vais manifester ma tristesse dans les pleurs et je me tais. Je me tais. Je préfère souffrir et ne pas créer des scandales chez les chrétiens. Voilà, il y a un problème, je préfère souffrir, s'il le faut, me retirer. Mais je ne veux pas créer les scandales dans la vie de quelqu'un. Bien-aimés, donnons gloire à Dieu. Regardons son intérêt. Ne blasphémons pas. Soyons humbles. Dieu corrige aussi ses enfants. Dieu bloque ses enfants pour éviter qu'ils fassent des bêtises. L'apôtre Paul avait reçu une écharde pour éviter qu'il tombe dans l'orgueil. Quand nous sommes dépassés, bien-aimés, taisons-nous. Disons, Seigneur, À toi seul la gloire. Je te rends gloire. Parce que le faux chrétien, pour qu'il te rende gloire, il faut que tu lui donnes 5 voitures. Moi, je suis un vrai. Même en prison, je vais te rendre gloire. Même quand un enfant meurt, je vais te rendre gloire. Même à l'hôpital, je vais te rendre gloire. Même dans l'injustice, je vais te rendre gloire. Je ne vais pas porter la main sur ceux qui revendiquent être chrétiens aussi. Je les laisse tranquilles. Je te rends gloire. C'est toi qui es ma justice, c'est toi qui me justifieras. Je ne veux pas répondre au mal par le mal. Parce que si je le fais, je ne te rends plus gloire. Moi, je veux te rendre gloire. Je me répands, même si mon erreur n'est pas avérée, mais je préfère te rendre gloire. Je préfère m'attendre à toi. Comme ça, ton nom sera élevé. Paul dit à Timothée, un vrai homme de Dieu n'entre pas dans les querelles. Querelle, tu te retires. Tu dis, je ne veux pas me quereller. Je veux rendre gloire à Dieu. Je veux dire ce qu'il faut. Si ça continue, je me tais et je rends gloire à Dieu. Ayons l'attitude qui rend gloire à Dieu. L'apôtre nous dit dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 7, il dit, nous vivons des temps de la fin. Que ceux qui sont mariés, que ceux qui sont riches, que ceux qui sont beaux, qui sont forts, vivent comme s'ils ne l'étaient pas. Vivent comme s'ils ne l'étaient pas. Parce que si tu veux revendiquer tout le temps tes droits, tu tomberas dans le mal. À un certain moment, il faut dire, bon, je vais prier, Dieu va faire. Il faut avoir les yeux fixés sur Dieu et non sur les humains. Avoir les yeux fixés sur la parole de Dieu. Pour avoir les bonnes réactions dans les moments difficiles. Et la réaction que Dieu veut pour nous, à travers ce volcan qui s'est manifesté, c'est qu'on soit humble et qu'on lui rende gloire, qu'on reconnaisse que Dieu existe et qu'il est au-dessus des humains. La réaction que Dieu veut, c'est qu'on soit libre dans notre prédication, qu'on dise clairement que ce sont ses jugements. Et celui qui ne se répand pas subira les jugements, comme nous avons subi un avant-goût à travers l'arrêt des avions. Ça fait bien aimé pour nous qui étions sur place. Eh bien, on ne sent pas le jugement. Mais imaginez quelqu'un qui était en Inde. Il lui restait que 30 euros. Il y a des gens qui connaissent l'Afrique, mais l'Inde, c'est encore autre chose, hein. La poussière qu'il y a là-bas, bien même avec 30 euros, tu vas faire comment? Ces gens-là ont subi le jugement. Il y a des gens qui devaient se présenter à des offres d'emploi, à des entretiens pour l'emploi. Ils l'ont loupé. Ils ont subi. Tu attends que tu subisses. Si les autres ont subi, ils ne se sont pas repentis, est-ce que toi tu crois que tu vas te repentir? Tu es un humain comme eux. Dieu veut que toi tu observes, que tu prennes des dispositions, que tu comprennes que l'heure est grave. J'ai échappé à ce volcan, mais je n'échapperai pas peut-être au deuxième. Je n'échapperai peut-être pas au prochain tremblement de terre. C'est le moment de s'humilier. C'est le moment d'adopter la vie chrétienne que Dieu veut. C'est le moment d'arrêter avec le péché, l'hypocrisie, le double jeu. C'est le moment d'arrêter avec la sorcellerie. C'est le moment d'arrêter. On n'a vu aucun magicien bloquer le volcan. Dieu seul peut arrêter cela. Ces jugements sont un avertissement pour nous tous. N'endurcissons pas nos cœurs. N'endurcissons pas nos cœurs. Soyons simples et humilions-nous devant Dieu. Et si nous avons besoin de conseils, allons demander aux aînés des conseils. Mais n'endurcissons pas nos cœurs. Il est écrit, quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, le Seigneur te parle. Tu as beau être millionnaire, mais tu ne peux pas faire face à un volcan. Tu as beau avoir les vêtements de Christian Dior, mais ça ne peut pas résister à un volcan. Ta beauté ne résistera pas à un volcan. Le gris-gris que tu portes là ne résistera pas à un volcan. D'ailleurs, tout le monde peut couper ça avec une paire de ciseaux. Les pouvoirs que tu peux avoir dans la magie ne résisteront pas à un volcan. Dieu seul est Dieu. Au-dessus des volcans, au-dessus des montagnes. Son nom est l'Éternel. Staline est passé, les dictateurs sont passés. Nous, on croyait que certains présidents étaient éternels. On avait un dictateur dans mon pays. Nous, on est nés, il était déjà au pouvoir. On a grandi, on a eu le bac, il était toujours au pouvoir. On a fini l'université, il était toujours au pouvoir. Et on lui chantait un chant, on lui accorde encore 100 ans. Bien aimé. Ça n'a même pas dépassé 40. Mais quand tu vas chez un féticheur, on te dit, bon petit, on te donne 30 ans de pouvoir, 30 ans de succès dans la musique. Tu as l'impression que c'est fini, c'est toute la vie, 30 ans. Mais bien aimé, les 30 ans, ça passe. Quand tu sors avec ton diplôme d'expert comptable, diplôme de médecin spécialiste dans telle spécialité encore, tu te dis, la vie est devant moi, un grand cabinet. Mais bien aimé, 30 ans, c'est passé très vite. Le mur de Berlin est tombé très vite. Ça passe très vite. Tu te retrouves à la maison de retraite, on te donne la soupe, bien aimé, avec la cuillère. Tu te retrouves, vous savez, Mohamed Ali, il a fini comment? Les jugements sont devant nous pour nous montrer, voilà. Mohamed Ali, l'homme le plus beau, le plus fort. Il finit avec Parkinson. Il faut qu'on l'emmène faire tous ses besoins, manger. Il faut qu'on l'aide dans tout. Il a fini comment? C'est le moment de se réveiller, bien-aimé. Et de dire, je suis petit, Dieu est grand. Sa parole est la vérité. Je veux m'humilier devant sa parole. Moi, le premier, bien-aimé. On ne discute pas avec Dieu. Devant Dieu, on se soumet et on s'humilie. Soyons fermes dans notre position par rapport à Dieu. Ne nous laissons pas fatiguer par la pression ambiante. Soyons fermes. Osons dire que Dieu juge. Osons dire que le tremblement de terre, c'est le jugement de Dieu. Osons, quand nous sommes inspirés. Et osons aussi dire que Dieu aime les hommes, il veut les sauver. Amen. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, merci de nous aider à revenir à la simplicité et à la prière. Nous avons besoin de prier pour que tu touches les hommes et qu'ils changent, ô Éternel. Nous avons besoin de prier car le cœur de l'homme est devenu plus dur qu'avant. Autrefois, les gens, quand ils étaient surpris par les catastrophes, ils allaient vite se repentir. Aujourd'hui, les gens cherchent des solutions par eux-mêmes. Ils cherchent des explications personnelles, des explications pseudo-scientifiques. Nous, nous voulons nous humilier. Reconnaître cette qui est dans Apocalypse 16, que c'est toi qui gères toutes ces catastrophes, que tu es celui qui les contrôle. Et lorsqu'il y a une catastrophe, lorsqu'il y a des jugements qui tombent, que nous puissions nous repentir. Que nous puissions nous humilier et arrêter avec le péché. Ô Seigneur, nous te demandons pardon parce qu'on a eu peur de dire que tu jugeais l'humanité. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que nous n'avons pas, Seigneur, résisté à la pression des rébellions vis-à-vis de toi. La rébellion a gagné à un fort niveau le cœur de l'homme. Et ça a commencé à nous toucher nous-mêmes personnellement. Purifie-nous, Seigneur, de cette rébellion, Seigneur. Et que nous soyons vraiment comme Samuel, quand tu l'as appelé, il a dit, ton serviteur est là, il écoute. Que nous soyons comme Jésus, notre maître. Qui n'a pas cherché comme proie à devenir l'égal, ton égal, Mais il s'est humilié en prenant la forme d'un esclave, la forme d'un homme, la forme d'un esclave. Que nous puissions suivre son chemin et prendre devant toi la forme d'un esclave. Obéir à tes ordres, te faire confiance et ne pas polémiquer avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous aider à te reconnaître comme Seigneur et le Seigneur. Merci, Seigneur, de nous aider à te reconnaître comme le roi des rois. Oh, Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Naissante dans nos cœurs vis-à-vis de toi, qui s'est manifestée par le refus de nous soumettre point par point à ta parole. Nous voulons vraiment que tu nous purifies. Nous venons à toi tel que nous sommes, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous puissions retrouver notre place de serviteurs, notre place d'esclaves, Seigneur. Que nous puissions te servir, un point c'est tout. L'esclave sert le maître. Il n'est pas là à discuter les goûts du maître. Il est humble aux pieds du Maître pour recevoir ce qui vient du Maître. Alléluia.